Ils avaient dit « Ce soir, on ne rentre pas chez nous ». Le 31 mars 2016, à Paris, la manifestation organisée par les syndicats CGT et FO contre la loi travail s'achève sous une pluie battante. Mais des centaines de personnes ne rentrent pas chez elles. Elles se regroupent place de la République. La mobilisation Nuit Debout, qui a démarré dans la capitale, se propage rapidement. À Rennes, c'est à l'esplanade Charles de Gaulle, à Nantes, place du Bouffay, à Toulouse, au Capitole, et dans bien d'autres villes, des places publiques sont investies. Les participants réclament l'abrogation de la loi travail, dite aussi loi El Khomri, du nom de la ministre chargée de ce dossier dans le gouvernement Valls. Mais très vite, au gré des forums, des commissions, des textes postés sur les réseaux sociaux, les thèmes évoluent. Critique du capitalisme et des lois du marché, débat sur les rapports femmes-hommes, sur l'écologie, la culture populaire, l'engagement et le bénévolat. Nuit Debout, mouvement sans chef ni porte-parole, sans revendication précise, va durer 3 à 4 mois. Un laboratoire démocratique ou bien un happening permettant à chacun de s'exprimer à sa guise, un feu de paille qui a illuminé ces nuits de printemps, ou bien un mouvement qui a marqué les esprits et innové en matière de contestation. Et comment est-on passé des places publiques au rond-point, de Nuit Debout en 2016, aux Gilets jaunes en 2018 ? Toutes ces pistes sont explorées dans le livre « Nuit debout, des citoyens en quête de réinvention démocratique ». Cet essai, publié par les Presses universitaires de Rennes, a été co-dirigé par Christine Guillonnet, qui est notre invitée aujourd'hui dans « Chercheurs en ville ». Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Chercheurs en ville, ravie de vous retrouver sur Canabé aujourd'hui. Notre invitée aujourd'hui est Christine Guillonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences HDR, habilitée à diriger des recherches en poste à la Fac de droit et de sciences politiques de Rennes 1, mais également directrice adjointe du laboratoire à Rennes. Et pendant une heure, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, professeur de sciences politiques. Bonjour Christian.
Bonjour.
Colette, vous avez la parole.
Nuit debout, un feu de paille qui a éclairé les nuits du printemps 2016. Pendant 100 jours dans plusieurs villes de France, ou un mouvement qui a marqué les esprits et innové en matière de contestation. Christine Guillonnet, avec le sociologue Michel Viviorca, vous avez co-dirigé cet essai qui réunit les contributions de 6 autres chercheurs et chercheuses. Pourquoi vous êtes-vous intéressée au phénomène Nuit debout ?
Alors, personnellement, j'ai toujours été très intéressée par les thématiques du rapport des citoyens ordinaires, entre guillemets, lambda, aux politiques. J'avais fait ma thèse sur la découverte du vote par les Français au 19e siècle, par le petit peuple au 19e siècle. Et puis ensuite, je me suis intéressée au discours autour de la politique autrement, tenu par les femmes en 2001. Par les listes motivées et citoyennes aussi. Et donc Nuit debout m'a semblé être un nouveau mouvement qui, exactement de la même façon, permettait d'appréhender ce rapport de tout un chacun, en fait, dans son quotidien avec la politique.
On va bien sûr passer l'essentiel de l'émission sur Nuit debout, mais est-ce que consoeurs et confrères en sciences sociales et humaines se sont aussi intéressés, se sont aussi emparés du sujet Nuit debout.
Alors curieusement, il n'y a pas eu, enfin curieusement non, ça en fait ça s'explique, mais il n'y a pas eu énormément de travaux sur Nuit debout. Il y a eu un petit groupe de chercheurs qui, au moment des assemblées Nuit debout, place de la République à Paris, sont allés un petit peu faire de l'observation directe. Mais ça n'a pas duré très longtemps et il y a eu 2-3 articles qui ont été publiés. Mais il y a eu peu de recherches finalement, pour une raison très simple, c'est que le mouvement a été quand même relativement éphémère, que c'était des citoyens qui étaient là, qui n'étaient pas étiquetés derrière des étiquettes partisanes et donc pas facilement identifiables et dont la trace à retrouver était extrêmement difficile une fois le mouvement disparu en fait. Et si bien que enquêter a posteriori sur ce mouvement, eh bien, c'était compliqué. Et d'un autre côté, ben, enquêter au moment du mouvement, ben, ça nécessitait d'être disponible. Ce qui, on a des agendas qui sont quand même assez chargés, donc il faut que ce soit le hasard, il faut qu'on ait une disponibilité pour assister à ce qui est en train de se passer.
Christian Lebar.
Oui, surtout quand ça se passe la nuit. Une des caractéristiques, enfin je rentre dans le vif du sujet, mais une des caractéristiques de ce mouvement, c'est qu'on y trouvait aussi de façon significative, disons, des intellectuels précaires, et donc peut-être, c'est une question, un lien quand même assez, sans doute indirect, mais qu'il est possible de construire avec les mondes de la recherche. Et je dis ça aussi par comparaison avec les Gilets jaunes, pour lequel il est notoire que l'accueil fait aux chercheurs en SHS a souvent été difficile, en particulier les chercheurs titulaires, et souvent ce sont les doctorants, les chercheurs eux-mêmes précaires, qui ont réussi à créer des liens, des connivences avec le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'est la même chose pour... est-ce que pour Nuit Debout, il n'y avait pas, a priori, quand même, davantage de proximité avec le monde de la recherche ?
Ah oui, tout à fait. Enfin, ça se voyait sur Place de la République à Paris, par exemple. Il y a beaucoup d'universitaires qui sont venus et qui ont pris la parole, qui ont été invités à prendre la parole, parce qu'évidemment, il n'était pas question de prendre soi-même la parole pour faire des conférences. Hein, mais ils étaient...
On a beaucoup parlé de Frédéric Lordon.
Mais pas que Frédéric
Lordon. C'est qui Frédéric Lordon ?
Donc c'était un des initiateurs du mouvement, hein, qui était notamment dans Fakir et qui gravitait dans toute la mouvance qui se réunissait Bourse du Travail juste avant l'épisode Nuit Debout, avec Ruffin aussi, enfin toute une mouvance alternative de gauche.
Et donc, qui est par ailleurs... Lordon, pour répondre à la question de Colette, ouais. Il est philosophe, socialiste de Spinoza, je crois, c'est ça ?
Ouais. Mais il y a eu beaucoup. Je sais que Loïc Blondiot, par exemple, spécialiste de la démocratie participative, a été invité parce que le principe de Nuit Debout, c'était de faire des conférences. Et donc, il a été invité à faire une conférence sur la démocratie participative et la démocratie. Et il y a eu un certain nombre d'universitaires qui sont venus. Par curiosité ou venu parce qu'ils étaient invités. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait le monde universitaire était quand même bien représenté dans ce mouvement-là.
Vous pouvez, parce qu'en préparant cette émission, des amis m'ont dit « Oh là là, Nuit Debout, ah c'est vrai, on avait oublié, c'est loin. » Alors s'il vous plaît, on va faire quand même un point d'info. Rappelez-nous ce qu'est Nuit Debout.
Alors,
pourquoi ça commence, ouais, quand, ouais. Rapidement, s'il vous plaît.
Donc, la genèse de Nuit Debout, le catalyseur, on va dire, c'est la loi travail, la loi El Khomri, qui déconstruit, qui libéralise toutes les questions du droit du travail.
El Khomri, du nom de la ministre du Travail du gouvernement Valls.
Ou encore loi dite le travail, qui... a été perçu par justement les nuits deboutistes, on les appelle comme ça, hein, comme une loi néolibérale, marquant un retour en arrière sur un certain nombre de garanties en matière de droit du travail. Et donc des manifestations ont lieu à partir au moment où cette loi est débattue. Sauf que dès février 2016, puisqu'on se situe en 2016, il y avait précisément ce groupe d'intellectuels alternatifs de gauche qui se réunissait déjà Bourse du Travail, dans une optique qui était une optique de convergence des luttes. Faire en sorte qu'il y ait des intersyndicales, qu'il y ait toute une mouvance qui considérait que la société évolue vers plus de libéralisme et qu'il y avait un problème. Et donc ce groupe qui se réunit Bourse du Travail, lors de la première manifestation, prépare des tracts. Et ces tracts sont distribués aux manifestants et sur ces tracts est écrit « Ce soir on ne rentre pas chez nous ». Voilà, et c'est pourquoi le 31 mars, les gens viennent s'assembler Place de la République, enfin je simplifie, mais viennent s'assembler Place de la République à Paris. Les réseaux sociaux vont jouer un rôle extrêmement important aussi, puisqu'il va y avoir une page Facebook, un hashtag, etc., qui vont être postés pour inviter les gens à venir se joindre au mouvement. Ce premier soir se passe plutôt bien, et ils décident de revenir le lendemain. Et donc, le lendemain, on décide d'appeler cette nouvelle date le 32 mars, symboliquement, par emprunt au calendrier révolutionnaire de 1789, oui. Enfin de notre Révolution française. Et là, mayonnaise prend, en fait, grâce aux réseaux sociaux. Il y a aussi des mouvements identiques qui commencent à éclore un peu partout en province.
Le principe est simple. Tout le monde peut parler de tout, mais pas plus de 3 minutes.
Bonsoir. Je pense qu'on ne pourra jamais se réapproprier la pensée si on ne se réapproprie pas les mots d'abord qu'on utilise.
Finalement, le grand soir, pour moi, c'est une belle idée, mais c'est une vieille idée. Je crois plus en la juxtaposition et en l'empilement de petits matins.
Il y en a à Rennes, à Lyon, à La Rochelle, à Grenoble.
Dans toutes les villes relativement importantes de France, et même des petites villes parfois. Ça dure. C'est toujours compliqué de faire un calendrier, mais disons qu'on a 3 mois qui sont avérés sur les places, où on les voit sur les places, mais en réalité, ça a continué bien après. Par exemple, notre enquête rennaise a montré que ça a duré plus d'un an après, sous d'autres formes en réalité.
Mais des places publiques investies par la foule, on a vu ça en Égypte et en Tunisie au moment des printemps arabes en 2011. On l'a vu aussi en Espagne à Madrid, en Grèce, aux États-Unis avec le mouvement Occupy Wall Street. Mmh. Ou à Istanbul en 2013. Mm-hmm. Qu'est-ce qui distingue Nuit Debout de ces mouvements ?
Alors, qu'est-ce qui les distingue ? C'est vrai qu'on est facilement tenté par la comparaison et l'assimilation, parce que ce sont des mouvements citoyens. Ils ont tous en commun d'être des mouvements... Donc, j'ai commencé par ce qui les ressemble, et ce qui fait qu'on se pose la question de qu'est-ce qui les distingue. C'est-à-dire que ce qui les ressemble clairement, c'est que c'est des citoyens qui descendent dans la rue, et qui descendent dans la rue sans parti et sans syndicat, donc en tant que citoyens, en tant que profanes, ça c'est important. Après, qu'est-ce qui les distingue ? Beaucoup de choses. D'abord, ce qui les fait descendre dans l'immédiat, dans la rue. Là, c'est la loi travail, dite loi El Khomri. À Occupy Wall Street, c'était une autre préoccupation. À Gezi, c'était le projet de couper les arbres
Istanbul.
Du parc. Gezi à Istanbul, ouais. De couper les arbres du parc Gezi. Le catalyseur de chaque mouvement est différent. Et puis, il y a aussi la question de est-ce qu'on est en démocratie ou est-ce qu'on est en contexte autoritaire. La comparaison la plus difficile, c'est sans doute avec les mouvements de place arabe, qui étaient des mouvements clairement de contestation des régimes en place, ce qui n'était malgré tout pas le cas chez nous, puisque c'était plutôt des contestations de l'orientation politique, des politiques qui étaient prises, qui étaient en train d'être élaborées.
Oui, là, il ne s'agissait pas de renverser le pouvoir
et
de demander plus de démocratie en France.
Alors, de demander une autre démocratie,
plutôt
que plus de démocratie. Enfin, l'un va avec l'autre dans leur esprit, mais plutôt une autre façon de pratiquer la démocratie, qui est de redonner plus de parole au peuple, en fait.
Christian.
Alors, une des singularités du mouvement qui est très bien mise en évidence dans l'ouvrage, c'est la relation compliquée qu'il entretient au format institutionnel de contestation, et en particulier autour du problème des leaders, des porte-paroles, etc. Alors, c'est quelque chose qu'on voit dans pas mal de mouvements sociaux en France aujourd'hui, mais qui, du coup, peut-être marque la singularité. Alors, je parle sans savoir, mais par rapport au mouvement anti-autoritaire, que ce soit en Tunisie ou en Turquie, peut-être que là, on a quand même une vraie différence un peu sociologique, quoi, hein, d'un mouvement qui est plus expressif, peut-être moins obsédé par ses adversaires et par la frontalité d'un combat politique, et donc moins soucieux de s'organiser au sens militant traditionnel, je ne sais pas.
Alors, oui, complètement, je dirais, parce que la question. Ce que veulent tous ces citoyens qui viennent s'assembler sur les places et qui reviennent soir après soir, souvent ils sont obligés de partir la nuit, puisque la police enlève les, enfin exige que les campements soient levés à une certaine heure. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne Nuit Debout. Et donc, ce sont, oui, des citoyens qui viennent là pour partager des témoignages en tant que citoyen, en tant qu'individu lambda, en tant que profane, partager des expériences, partager des déceptions par rapport au dysfonctionnement de la démocratie. Et imaginer ce que pourrait être une société plus juste, c'est un mot qui ressortait beaucoup, hein, une société plus attentive aux différentes inégalités et discriminations sociales, et une démocratie qui, parce que ce qui ressortait énormément, c'était les politiques ne nous écoutent plus, et donc allons sur les places, occupons l'espace public pour nous faire entendre.
Nous, c'est qui ? Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu le portrait de ces hommes et ces femmes qui ont consacré parfois quelques heures, parfois des nuits entières à ce mouvement ?
Alors, d'abord, c'est une question qui est un peu difficile parce que ce qui caractérise justement ce mouvement, c'est que c'est un mouvement très hétérogène, par définition, et par définition difficile à saisir, puisque précisément, pour les politistes que nous sommes, on n'y voyait pas de bannière partisane ni syndicale. Donc, ce sont des individus qui viennent là en tant qu'individus. Après, en termes sociologiques, ce qu'on a quand même pu observer, c'est que globalement, c'était, même si toutes les catégories d'âge étaient présentes, c'était quand même une population plutôt jeune. Pas forcément des très jeunes, il y en avait, mais il y avait aussi pas mal de trentenaires, par exemple. Que c'était une population qui était plutôt plus diplômée que l'ensemble de la population française. Et pas n'importe quel diplômé, c'est-à-dire beaucoup de gens qui avaient, malgré leurs études, qui étaient installés dans une forme de précarité dans le rapport à l'emploi, de précarité biographique aussi. Et plutôt, enfin, c'est, voilà, si on devait brosser un portrait type, mais sachant qu'il n'est pas exhaustif, on pourrait brosser ce portrait-là. Où il y avait peut-être un petit peu plus d'hommes que de femmes, mais ce n'était pas flagrant, hein, c'était à peu près équilibré, mais plutôt un jeune d'une trentaine d'années, par exemple, qui aurait fait un doctorat, puisque Christian, tu en parlais tout à l'heure, un doctorat en sciences politiques ou en lettres et ou en théâtre, et qui n'aurait pas de travail.
Vous avez dit que c'était dans le livre... beaucoup de gens dans la communication, dans la culture, oui, dans l'informatique, dans l'associatif,
oui,
avec donc des voilà, diplômés et situations économiques et financières assez précaires.
Oui, tout à fait, oui. Ouais.
Et géographiquement, pour être la nuit Place de la République à Paris, il faut habiter le centre-ville, non ?
Oui, il y avait cette question-là aussi, c'est-à-dire que ça a été un des grands regrets des Nuits Deboutistes, c'est qu'ils n'ont pas réussi à attirer, par exemple, les jeunes de banlieue, qui étaient très, 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 très peu présents. Ils les ont invités à deux ou trois reprises pour... prendre la parole pour s'exprimer, mais ils étaient pas là, clairement, ils étaient pas, donc c'était surtout des Parisiens, oui, du centre de
oui,
Paris, en fait, et à Rennes de la même façon, c'était surtout des Rennais qui, voilà, les gens des campagnes n'étaient pas là, ce qui, on en parlera tout à l'heure, fait une différence avec le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, qui est un mouvement qui a été très fort dans les campagnes aussi.
Dans Nuit Debout, par rapport à d'autres mouvements, et en France, et surtout à l'étranger, ça se passait la nuit, mais les gens rentraient quand même dormir chez eux. Ça demandait beaucoup de disponibilité, évidemment. On y reviendra sur le rôle des leaders. Et aussi, ces occupations étaient légales. C'est-à-dire que... par rapport à des régimes autoritaires, etc. Là, il y avait l'autorisation de la préfecture. Ça n'a pas empêché, bien sûr, des heurts et les places vidées tous les soirs, en particulier à Paris. Alors, qu'est-ce que ça a entraîné aussi pour Nuit Debout ? Parce que le lendemain, il fallait remonter.
Alors, elles étaient légales parce qu'ils demandaient effectivement l'autorisation à la préfecture, parce qu'ils savaient bien que sinon, ils seraient délogés immédiatement. Après, ça se passait souvent un peu violemment en fin de soirée, au sens où à 22h, par exemple, place de la République à Paris, il fallait lever le camp, et ils n'avaient pas envie. Et donc, à chaque fois, ils essayaient de rester. Donc, c'était extrêmement coûteux. Ici, à Rennes, ça a été plus facile, quelque part. Mais c'était extrêmement coûteux. Oui, il fallait à chaque fois démonter les installations et puis le lendemain revenir et remonter les installations. Ça a été très pesant pour un certain nombre de personnes qui devaient assurer à chaque fois toute cette logistique, en fait.
Alors concrètement, à Rennes, c'était où et c'était à quelle heure et il y avait combien de personnes pour donner un peu une idée ?
Alors à Rennes, donc c'était place du Champ de Mars, donc la grande place du cinéma.
L'esplanade de Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle, Champ de Mars, j'ai dit. Oui. Charles de Gaulle.
Faut du monde pour remplir la
place. Ou alors place Charles c'était de Gaulle. Bon, ça a été plein surtout au début, en réalité. Les premiers soirs. Après, c'était beaucoup plus clairsemé. Et donc, ils avaient installé pas mal de baraquements qui restaient, pour le coup, ici à Rennes, dans la journée. Et qui étaient fréquentés. Enfin, ils avaient toute une installation. Il y avait même une cantine. Il y avait même un petit jardin, puisque ça fait partie des grandes... des grandes projections, cette idée de jardin partagé, de cultiver soi-même, il y a toute une philosophie derrière. Et il y avait aussi pas mal de personnes sans domicile fixe qui venaient aux manifestations avec quelque chose de très... Très drôle à observer, c'est que dans leur extrême tolérance, en fait, les nuits déboutistes disaient mais ils ont le droit de prendre la parole eux aussi. Et donc, lorsqu'ils s'exprimaient, ben, on les laissait s'exprimer.
Je voudrais t'interroger sur la transformation des imaginaires liés aux actions collectives, qui pendant longtemps étaient des imaginaires de mobilité. Une manifestation, c'est, on allait d'un point à un autre. Et je trouve que de plus en plus, on a affaire à des imaginaires, au contraire, de l'occupation immobile. Alors, ça vient des ZAD, hein, ça vient aussi de... Voilà, toute une série d'utopies, d'habitats alternatifs, etc., de contre-sociétés hyper-localisées, au fond. Et j'ai l'impression que les mouvements sociaux, on l'a vu avec les ronds-points des Gilets jaunes, sont de plus en plus ça. C'est-à-dire, au fond, on ne se déplace pas vers les lieux de pouvoir pour les contester, mais on s'installe et on propose une espèce de, de contre-société. Tout à l'heure, je parlais de dimension expressive, mais voilà, on veut vous montrer qu'on est capable de penser le monde autrement, et on s'installe, et on se donne à voir avec un jardin, avec des prises de parole libres, avec de la justice, de l'égalité, etc.
Oui, parce qu'en fait, on ne fait pas la même chose quand on manifeste. Effectivement, on manifeste une insatisfaction, ou alors on manifeste pour exprimer une volonté. Alors que quand on s'assemble et qu'on occupe... on a beaucoup parlé de lieux totems, c'est-à-dire cette idée que c'est des lieux qui vont devenir emblématiques, en réalité, et qui vont rassembler. Eh bien, d'abord, on fait commun. C'est-à-dire que ça a été beaucoup dit dans les entretiens que... Donc l'enquête rennaise, je l'ai faite avec Barbara Doulin, je tiens à le dire. Je remercie beaucoup Barbara d'avoir participé à cette enquête. Beaucoup de ceux qu'on a interviewés, justement, nous disaient les émotions extrêmement fortes qu'ils ressentaient à être assemblés sur ces places et à sentir qu'ils appartenaient à une communauté de citoyens partageant finalement les mêmes envies, les mêmes déceptions. Notamment l'envie d'échanger, de témoigner de leur parcours difficile et de témoigner aussi de leurs envies et de se projeter dans ce qu'ils avaient envie de construire collectivement. Donc, c'est vrai que le fait de passer d'une mobilisation... Alors, il y avait les deux, puisque c'est ce qui caractérisait Nuit Debout, c'est qu'il y avait des moments de manifestation et puis des moments d'assemblée sur la place. Et à Rennes, c'était même un peu plus compliqué, puisqu'il y a eu aussi l'occupation de la Maison du Peuple, où les plus ceux qui étaient les plus dans la mouvance convergence des luttes, mouvement intersyndical, étaient beaucoup plus représentés. Tandis que ceux qui ont continué à faire Nuit Debout sur les places disaient « Mais nous, on veut vraiment être totalement à l'écart de toute récupération syndicale et politique. Nous, on veut vraiment discuter pour discuter. » Alors, ce qui était très drôle, puisque du coup, ils avaient été taxés par ceux qui occupaient la Maison du Peuple de « bisounours ». Bisounours parce que voilà, bah, il voulait pas faire de politique, il voulait discuter simplement et faire des forums démocratiques sur les places.
Est-ce qu'on peut résumer l'ambition et l'objectif de Nuit Debout, discuter, espérer, apprendre, rêver et protester ensemble?
Alors ça dit déjà beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Oui, on pourrait le résumer comme ça. Donc protester, c'est clair, puisque c'était initialement ce qui a fédéré les gens, ce qui les a fait venir sur les places. Discuter, oui, c'était très important. C'est-à-dire qu'ils voulaient, je l'ai dit à plusieurs reprises, et ça a été montré dans d'autres travaux, notamment ceux de Christian sur l'individualisme, le registre du témoignage qui devient vraiment très important dans beaucoup de ces mouvements de place aujourd'hui. Et des mouvements sociaux. C'est-à-dire que c'est non pas la parole experte, mais justement la parole profane, la parole de tout un chacun, et ses expériences douloureuses qui sont valorisées, qui sont considérées comme étant importantes. Donc discuter, oui. Rêver, oui, clairement, quand on regarde les affiches qui étaient faites, les pancartes, par exemple ici sur la place... y avait beaucoup ça. Il y avait nous rêvons d'une meilleure société, d'une autre démocratie, d'un autre partage des richesses, d'un autre rapport à la nature. Essayer de parler justement de ce vers quoi ils voulaient aller.
Vous avez parlé de l'importance de la parole des profanes. On laisse tomber un peu les experts pendant un moment. Est-ce que, en termes de genre, les hommes, les femmes, est-ce que tous et toutes pouvaient s'exprimer et de quelle manière? Je crois que vous travaillez sur un article qui sera publié dans un livre consacré au thème du féminisme et du rapport femme-homme dans Nuit de Bourraine. Mmh. Alors... dévoilez-nous un peu votre travail là-dessus. Est-ce que la place publique, est-ce que c'est un bel et un bon espace et pour les femmes et pour les hommes?
Alors, du fait de la composition sociologique, donc du coup là je vais vraiment parler surtout de Rennes, puisque c'est ce que j'ai pu observer moi. Parce que cette dimension du genre n'a pas tellement été introduite dans les quelques publications qu'il y a eu sur Paris. Du fait de la... des études suivies par certains des animateurs du mouvement, parce qu'il y avait quand même des animateurs, des personnes les plus investies, on sentait bien qu'ils étaient sensibilisés à toutes ces questions de prise de parole et d'un souci d'équité dans la prise de parole entre les hommes et les femmes. Et justement, ils renvoyaient dos à dos ce que leur mouvement devait être, à la différence de ce qui se passait à la Maison du Peuple, où c'était plus des partis, des syndicats ou des gens qui étaient dans cette mouvance intersyndicale et qui étaient beaucoup des hommes, manifestement, qui prenaient la parole. Donc l'Unité de Boutistes était extrêmement attentif à ce que, par le langage des signes notamment, on dise aux hommes qui parlaient trop longtemps de s'arrêter et on donne la parole aux femmes de façon équilibrée par rapport aux hommes. Ceci étant, d'une part, les femmes participaient moins parce qu'elles demandaient moins la parole, parce que il y a toute une culture de l'expression publique qui est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, plus développée d'assurance en soi et qui est plus développée chez les hommes que chez les femmes. Et puis parce que on a beau être sensibilisé à cette question de l'égalité, il y a des mécanismes qui se reproduisent sans qu'on en ait nécessairement conscience. Et on voyait, enfin nous sociologues, on voyait que ces acteurs, même avec la meilleure bonne volonté égalitariste, avaient parfois des comportements où ils se rendaient pas compte que oui, c'était les hommes qui étaient là pour organiser les réunions, pour à chaque fois lire des textes, et que ils étaient quand même clairement plus, comment dire, plus aux manettes que les femmes.
On va faire une pause musicale. Grand chant, pas de révolution, pas d'action contestataire sans musique et sans chanson. Et là, Bella Ciao par Goran Bregovic.
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il maso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao.
Sur les places, on n'a pas seulement chanté Bella Ciao. À Paris, il y a eu la constitution d'un orchestre symphonique qui a même interprété la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Comment ça se fait, dans un mouvement de contestation, qu'on reprenne la forme tellement classique, tellement bourgeoise d'un grand orchestre, alors avec ou sans chef ?
Et oui, ça a été tout un mystère et tout un débat. Donc, en fait, l'histoire, c'est celle d'un musicien qui va à Nuit Debout les premiers soirs et qui est en train de répéter ce morceau avec son orchestre. Voilà. Et qui se dit, tiens, ben, en fait, vu le nombre impressionnant de gens qui sont là, ce serait vraiment super si on pouvait faire un orchestre debout et jouer la symphonie du Nouveau Monde. Et il commence à mettre un poste et à demander si d'autres personnes pourraient être intéressées. Et bon, il y a une personne qui lui répond. Mais ceci étant, il y a une personne qui lui répond, ils se rencontrent et là ils décident de continuer, de persévérer. Donc ils vont en commission, la commission qui organisait un petit peu les manifestations.
Une des 70 commissions.
Animation, voilà, c'est ça.
Qu'il y avait sur la place de la République à Paris.
Ouais, la commission animation. Et il y retourne tous les soirs. Mmh. Et la première fois qu'il propose ça, tout le monde se moque de lui. Et puis, oui, ça fait débat parce que il y a cette idée. On lui dit que la musique classique, c'est une musique plutôt des classes sociales supérieures, élitistes. Et puis, il y a cette idée aussi qu'un orchestre, c'est dirigé par un chef. Et les Nuits Deboutistes ne veulent pas de chef. Et donc, finalement, là encore, c'est par les réseaux sociaux que la mayonnaise va prendre, puisque ils vont continuer à mettre des posts et à faire une page Facebook là-dessus. Et ils ont rapidement 1000 personnes qui répondent que oui, soit musicien professionnel, soit musicien amateur. Ils sont tentés par l'aventure. Ils auront même jusqu'à 9000 personnes qui proposeront leur service. Et donc finalement, ça va marcher. Alors, dans des conditions qui sont déroutantes hein, pour tout musicien qui se respecte, puisqu'il y a des clameurs invraisemblables.
Je vous conseille sur YouTube de retrouver ça.
Tout à fait.
En fait, ils ne seront pas 9000, mais quoi, oui. 350 à jouer. Mmh. Et ils joueront plusieurs mouvements de cette magnifique symphonie. Et donc, il y aura 3 chefs qui se succéderont et qui sont grimpés sur des palettes en bois.
Dans la nuit.
Dans la nuit. Et c'est magnifique, c'est vraiment très bien. Donc, là, le rôle du chef a quand même été avéré, parce que Nuit Debout, comme les zadistes, ne voulait pas de chef. Alors, pas de chef, pas de porte-parole, mais comme vous dites très bien dans votre livre, des leaders. Alors, des leaders, et quelqu'un dit ironiquement, les leaders se faisaient en disponibilité et en grande gueule.
Ouais. En fait, ils ne voulaient pas des leaders. Simplement, donc, ils ne voulaient pas tout ce qui pouvait représenter les fonctionnements institutionnels traditionnels, par exemple ceux des partis politiques avec des chefs de parti, ou la classe politique en général, ou les personnes qui dirigent les syndicats, les responsables syndicaux. Ils voulaient, le maître mot, c'était l'horizontalité, hein. Pour la raison que j'ai déjà évoquée, c'est-à-dire que c'était des citoyens profanes qui devaient tous être là et sur un plan d'égalité parfaite. Donc refus de tout phénomène de leadership. Alors néanmoins, ce qu'on a pu observer, et à Rennes y compris, c'est que, et oui, ceux qui avaient déjà une petite expérience militante, ceux qui avaient beaucoup de disponibilité biographique, parce que justement ils étaient au chômage.
Quand vous dites disponibilité biographique, je traduis. Ils avaient du temps dans la journée.
Alors ça, mais aussi pas d'enfants à gérer.
Oui.
C'est-à-dire pas besoin de rentrer à telle heure le soir. Enfin, c'est tout à la fois en fait. Pas de vie familiale trop prenante quoi finalement. Pas de boulot le lendemain matin à 8h. Et aussi une capacité à s'exprimer et à organiser des choses. On a vu de facto que ces personnes-là ont rapidement pris le mouvement en main. C'est grâce à ces personnes-là, d'ailleurs, qu'à Rennes, le mouvement a duré si longtemps. Et a pris ensuite plusieurs autres formes que les mouvements de place. Hein. Ça a été des manifestations beaucoup plus ponctuelles, des actions beaucoup plus ponctuelles. Il y a eu des goûters citoyens, il y a eu... À un moment, une lettre qui a été rédigée pour les candidats à l'élection présidentielle qui suivait, avec les fameuses 32 propositions, c'était à l'initiative du mouvement rennais et ça a été repris au niveau national. Bon, il y a eu tout un tas d'initiatives comme ça qui ont duré quasiment un an et demi, deux ans. Plus loin. Et ça, c'était parce qu'il y avait ces personnes-là qui étaient des leaders informels, alors qui ne voulaient pas être des leaders, mais qui néanmoins avaient les ressources finalement qui leur permettaient d'animer le mouvement.
Christian Lebar.
Oui, il y a le papier très, très intéressant et aussi très amusant dans l'ouvrage collectif de Manuel Cervera-Marzal, qui pose donc en termes très analytiques la question des leaderships émergents de facto dans ce type de mouvement, mais qui raconte aussi que lui, en tant que chercheur impliqué dans le mouvement, il a été en quelque sorte propulsé à un moment dans un rôle sinon de leader, au moins de porte-parole, par exemple, alors il est par ailleurs docteur en sciences politiques, par exemple, lorsqu'il s'agissait d'aller sur les plateaux de télévision pour dire ce qu'était Nuit Debout.
Ouais, ça c'est un phénomène qui est assez classique, c'est-à-dire que tout mouvement social, à partir du moment où il est sollicité pour s'exprimer face aux médias ou pour s'exprimer, pour aller porter une parole, par exemple au gouvernement, ça a été le problème des Gilets jaunes, hein, quand Macron a dit qu'il voulait bien auditionner des Gilets jaunes pour discuter avec eux, bah, il faut désigner des représentants. Et quand les médias s'adressent à un mouvement, eh bien oui, ces médias, ils sont contents quand ils trouvent quelqu'un qui accepte de parler au nom de Nuit Debout ici. Donc dans tous les mouvements sociaux, on assiste à ce phénomène un peu imparable, qui est aussi une fabrique finalement médiatique et politique de leaders informels.
Mais ce qui est aussi un signe d'hétéronomie, parce que du coup, enfin, dans le cas des Gilets jaunes, c'était très évident, les leaders ont été fabriqués de l'extérieur, par les médias, par le gouvernement, et dès qu'ils étaient fabriqués de l'extérieur, ils étaient détruits en interne. On pourrait presque, en caricaturant un peu, dire ça. Le mouvement n'en voulait pas, et donc toute reconnaissance par l'extérieur signifiait une espèce d'affaiblissement en interne.
Oui. Alors il ne faut pas occulter d'ailleurs justement le fait qu'il y a eu beaucoup de divisions dans tous ces mouvements, chez les Gilets jaunes comme à Nuit Debout. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure à Rennes les deux versants, le versant occupation de la Maison du Peuple qui était plus politisé et puis le versant bisounours, comme ils les appelaient, qui occupait les places et qui eux rejetaient tout phénomène de leadership. À Paris, il y a eu aussi une opposition très forte entre un versant plus politisé qui là avait clairement des têtes de proue, enfin il y avait Ruffin, il y avait Lordon, on l'a dit, mais il y avait aussi Sophie Tissot, il y avait pas mal ou si Sylvie, je sais plus, pas mal de personnalités comme ça, et puis il y avait d'un autre côté par exemple le Center Média à Paris, ceux qui s'occupaient des réseaux sociaux, etc., qui eux voulaient vraiment cultiver le citoyennisme, c'est-à-dire n'avoir d'autre étiquette que celle de citoyen. Donc c'était une question délicate et épineuse, et qui en sciences politiques est une grande question, parce que c'est la fameuse loi des reins des oligarchies partisanes que Roberto Michels a mise en évidence, c'est-à-dire que tout mouvement social, pour tenir dans la durée, a besoin à un moment donné de désigner des chefs, et rapidement, le problème c'est que ces chefs, ils ont tendance à prendre un petit peu plus de prérogatives qu'ils ne devraient, finalement.
Christine Guillonnet, absence de chef, d'accord, mais aussi absence de revendication, pas de négociation possible, pas de plateforme. Comment un mouvement social informel qui n'a pas, disons, d'objectif à court ou à moyen terme peut-il perdurer, et qu'est-ce que ça comment on s'engage, voilà. Quelle était la notion d'engagement des hommes et des femmes qui se sont retrouvés sur ces places ?
Alors, absence de revendication, je ne dirais pas ça comme ça. Parce que d'abord, il y avait la loi travail. Donc, on voulait le retrait de la loi travail. Donc, ça, c'est très clair. Et puis, ce qui a fait qu'on a beaucoup dit absence de revendication, les médias l'ont beaucoup dit, un certain nombre de commentaires, acteurs politiques l'ont aussi beaucoup dit. Marcel Gauchet a parlé de révoltisme, par exemple, en disant ils sont juste révoltés, en fait, mais ils construisent rien. C'est aussi Rosan Vallon qui parle de l'impolitique en disant qu'ils produisent rien concrètement, ces mouvements sociaux. Ils n'ont pas de débouchés concrets. En réalité, si, enfin, des revendications, ils en avaient plein. Ils en avaient plein. Il n'y avait qu'à aller dans les assemblées pour voir que. Et on pouvait rapidement les lister. Hein. C'était une vision alternative du rapport au travail, du rapport au capitalisme, du rapport à la nature.
Oui, mais plus sur le mode de. Enfin, pour me faire. Pour reprendre un peu quand même l'argument. Gaucher, Rosan Vallon, plus sur le mode de la juxtaposition et un peu du en vrac que sur le mode de la hiérarchisation comme font traditionnellement les mouvements sociaux qui établissent des priorités.
Oui, bien sûr, mais parce que précisément c'était pas leur objectif. Et ça a été un grand débat, c'est-à-dire qu'on a beaucoup vu ces mouvements d'en haut et on leur a collé cette étiquette de pas productif. Et notamment, justement, c'est Dominique Lordon qui était extrêmement déçu de l'absence de résultats tangibles et concrets que ces mouvements produisaient. Or, en réalité, quand on demandait dans nos entretiens aux acteurs, mais donc vous n'avez pas eu de résultats concrets, ils disaient, mais bien sûr que si, on a éprouvé le commun, on a échangé, on a témoigné. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. On est dans ce que, et il le citait, au moment d'Occupy Wall Street, il y a David Graeber qui a parlé de la politique préfigurative. En fait, c'est l'idée que on pratique la démocratie en étant présent, en étant assemblé, en échangeant. C'est le forum démocratique et c'est un peu aussi le do it yourself, c'est-à-dire que chacun à son niveau peut s'engager et peut participer au commun, en fait. C'est toute une culture de ces gens qui étaient là, c'est la culture des ZAD, c'est la culture des jardins partagés, c'est même la culture, c'était frappant, des logements partagés.
Alors du coup, c'est pas la culture des retombées. C'est-à-dire l'idée d'un mouvement qui obtient des choses, qui retombe sur tout le monde.
Et non, ça ne les intéresse pas.
Voilà, c'est un mouvement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mouvement expressif. Et ça va même plus loin, tu le montres très très bien dans ton papier. C'est aussi pour des gens qui sont en situation précaire, c'est aussi une façon de repenser leur propre trajectoire biographique. Par exemple, en sublimant un peu leur précarité, en disant... Je suis précaire, c'est pas parce que je suis défaillant en termes d'insertion sur le marché du travail, etc. Je suis précaire parce qu'on est dans une société lamentable où des gens comme moi ne peuvent pas... La société ne donne pas de place aux gens comme moi, à la formation que j'ai, etc. Donc il s'agit aussi de résoudre, j'allais dire, des contradictions autobiographiques.
Enfin, des contradictions, des cheminements biographiques tissés de précarité et qui sont relus au prisme du mouvement comme finalement une précarité qui relèverait d'une vision du monde, d'une vision justement du rapport au travail, du rapport aux politiques, qui est faite de refus de ce qui existe. Hein, et donc... par exemple, je prends l'un des les plus impliqués dans le mouvement, qui avait fait pourtant Sciences Po, qui a fait un master, mais qui refusait d'être en emploi, dans un emploi stable, parce qu'il ne voulait pas entrer dans cet univers-là, qui ne lui convenait pas, il voulait vivre différemment.
Mais en même temps, tu t'interroges sur ce discours sur la précarité choisie, en te disant, est-ce que...
Alors, on ne sait jamais s'ils font de nécessité vertu, si c'est parce que certains, sans doute, faisaient de nécessité vertu, c'est-à-dire avaient subi des formes de précarité et étaient contents de trouver, dans toute la rhétorique qui se déployait à Nuit debout, finalement une mise en mots politique, idéologique, d'une vision alternative de la société, de l'économie, du travail, qui donnait sens à ce qu'ils avaient vécu, finalement. Mais c'est toujours difficile, et puis c'est pas notre rôle à nous, sociologues, de dire est-ce qu'ils font de nécessité vertu, ou bien est-ce que réellement, finalement, dès le début, c'est parce qu'ils rejetaient ça qu'ils ont vécu des formes de précarité. Je dirais presque, peu importe. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir que ce mouvement leur a permis de retrouver une forme de dignité. Et beaucoup nous l'ont dit, de dignité, parce que ça permettait de mettre des mots qui dépassaient leur seule expérience personnelle, des mots politiques, finalement, sur des choses qu'ils avaient vécues à un niveau individuel.
Comme les Gilets jaunes, de ce point de vue-là, il y a vraiment une convergence très forte.
Une très belle phrase, c'est quoi dans une citation de Nuit de Boutiste, c'est ça ?
Oui.
C'est quoi le politique ? C'est que chacun a une certaine conscience et une certaine reliance à quelque chose de beaucoup plus grand que soi.
Et oui, c'est de ça dont beaucoup ont fait l'expérience. Donc là, en l'occurrence, c'est une femme qui est un peu plus âgée qui dit ça, mais qui est qui ne travaille pas non plus. Elle exprime exactement ce que beaucoup ont dit avoir ressenti, c'est-à-dire comment ils ont pris conscience, et chez les Gilets jaunes, on l'a beaucoup vu aussi, ils ont pris conscience que ce qu'ils vivaient, d'autres le vivaient. Ce qu'ils pensaient, d'autres le pensaient. Ça, c'est une forme, dans notre jargon de politiste, on dit de subjectivation politique. C'est-à-dire, ils se sont dit, je suis un sujet politique et j'ai des idées politiques. Et ce n'est pas mes idées qui sont liées à simplement mon parcours. En fait, ça correspond à une vision du monde et ça me dépasse largement. Donc il y a une forme de politisation qui a été permise clairement par ce mouvement.
Au bout de 100 jours à Paris, plus tard, comme vous l'avez très bien dit à Rennes, le mouvement s'est arrêté, ils sont rentrés chez eux. La loi travail a été non seulement adoptée, mais renforcée par la présidence Macron. Vous avez très bien dit ce qui a marqué les gens qui y ont participé, avec des ruptures parfois dans leur vie, on change de métier, on change de manière de pratiquer son métier, etc. Un an et demi après, on est passé des places au rond-point. Donc je vous pose la question à tous les deux, Christine Guillonnet, et aussi Christian, qui a publié l'an dernier aux Presses universitaires de Rennes, « Petite sociologie des Gilets jaunes, la contestation en mode post-institutionnel ». Comment on passe des places au rond-point ? Et qu'est-ce qui rassemble et qu'est-ce qui caractérise ces deux grands moments d'action populaire ?
D'abord, donc, qu'est-ce qu'ils ont légué, du coup ? Ils ont légué un nouvel imaginaire, enfin nouveau, non pas nouveau, mais un imaginaire de plus de la possibilité qu'avaient les citoyens d'occuper l'espace public, de s'affirmer, d'affirmer leur mécontentement et de partager des choses. Avec toute la magie qu'il y avait avec. Parce qu'il y avait des émotions très fortes, j'ai déjà dit souvent, mais j'insiste vraiment parce que c'est ce qui ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup. De très fortes émotions, ils ont vraiment adoré ces moments-là. Et beaucoup ont dit, c'est un moment qui sera inoubliable dans ma vie, ça a été une révélation. Et donc ces révélations, et l'empreinte historique, le souvenir de ces mouvements a permis ensuite que d'autres personnes qui n'étaient pas forcément sociologiquement les mêmes, et je vais laisser Christian le dire, mais que d'autres personnes puissent imaginer faire la même chose finalement.
Je suis vraiment d'accord. C'est deux mouvements vraiment cousins, mais qui ne concernent pas le même public. Hein. On a d'un côté des gens qui sont victime d'un déclassement à la fois économique, mais à mon avis surtout culturel et symbolique, qui se retrouve effectivement sur les places des centres-villes. Et puis on a d'un autre côté des gens qui vivent un déclassement plutôt économique et qui se retrouvent, voilà, cette France périurbaine qui se retrouve sur ce qui fait place pour elle, c'est-à-dire les ronds-points et les parkings de supermarchés. Donc il y a plus que du cousinage, en particulier autour de l'idée de la valorisation du témoignage, de la subjectivation, du bonheur qu'il y a à s'éprouver au contact des autres, à se raconter et à se rendre compte que ce que toi tu vis, c'est un peu ce que je vis, et qu'on le vivait, comme disait un gilet jaune, chacun devant sa télé, et qu'il vaut mieux le vivre ensemble autour d'un barbecue. Voilà, et donc cette même culture à la fois de communauté, de très, très horizontale, etc. Ce même refus des institutions, des porte-paroles, débouche un peu sur les mêmes impasses politiques. C'est-à-dire, ce qui est quand même frappant, et moi je voulais un peu terminer l'entretien là-dessus, c'est que si on se pose la question, qu'est-ce qu'il en reste en termes politiques ? Alors je suis d'accord, il ne faut pas voir toute la politique à partir des élections, etc., et à partir de l'action publique d'État, etc. Mais quand même, parce que bon, au-delà du plaisir qu'ils ont pu éprouver les uns et les autres à faire ce qu'ils ont fait, là on a une gauche, on est à quelques mois de l'élection présidentielle, on a une gauche à 10%. Enfin, donc la question des débouchés, elle s'est posée pour les Gilets jaunes, et ils ont été très faibles aux européennes, aux municipales. Enfin, il y a vraiment là une contradiction très déprimante, je trouve.
Bah, c'est pas une contradiction, parce que en fait, on peut pas attendre des citoyens qu'ils se substituent aux partis politiques. Et précisément, ces citoyens ne voulaient surtout pas devenir des partis politiques. Donc la relève et l'adaptation, elles doivent venir des partis qui doivent entendre tout ce que ces gens ont à dire, tout ce qu'ils ont dit. Et normalement, c'est à ça que ça pourrait servir, si on veut parler en termes utilitaristes sur le plan de la politique, la vie politique institutionnelle. C'est que normalement, il y a des messages quand même très forts qui ont été envoyés. Et les représentants, quand on voit les sondages sur le désamour entre les Français et la classe politique et les partis politiques, voilà, normalement, si on était vraiment en démocratie et que c'est notre démocratie fonctionnelle, les partis politiques devraient un petit peu écouter et essayer de prendre en compte toutes ces demandes qui ont émané de tous ces citoyens assemblés pour dire précisément que ça ne pouvait pas continuer comme ça.
Dans les programmes des différents candidats et candidates, puisqu'on est à 4 mois de la présidentielle, est-ce qu'il y a des mesures, des discours qui résonnent avec Nuit Debout et où les Gilets jaunes ?
Oh. Bon, il y a des personnalités qui ont, François Ruffin par exemple, hein, qui clairement a porté le discours Nuit Debout et Gilets jaunes bon, voilà, dans des accointances avec la France Insoumise, clairement. Et puis oui, il peut y avoir ponctuellement des reprises, mais par définition, il ne peut pas y avoir un parti qui représenterait ces mouvements-là, puisque c'était tout simplement pas possible. Ce serait un contresens que de l'imaginer. Mais en fait, ce qu'il faudrait imaginer, c'est plus que chaque appareil partisan ait en tête ce qui s'est passé et se dise, mais ok, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire plus de démocratie participative ? Puisque c'était une des demandes qui émanait et des Gilets jaunes et de Nuit Debout. Bon, mais une vraie démocratie participative, parce que ce qu'on a vu avec la Convention sur le climat, c'est que il faut aussi prendre en compte les préconisations qui émanent de ces dispositifs participatifs, sinon ça sert à rien et c'est un leurre de plus.
Oui, c'est là où on voit à quel point l'institution qu'est l'élection présidentielle à la française est totalement archaïque, parce que la question de la démocratie participative, qui est une vraie revendication et à droite, à gauche, enfin bon, qui est située politiquement, mais il y a quand même un vrai mouvement de fond, tous les collègues qui travaillent là-dessus le montrent bien, cette question disparaît complètement une fois qu'on rentre dans la moulinette de la campagne présidentielle, où là on est sur des imaginaires politiques complètement archaïques, du monarque présidentiel qui décidera de etc., etc. Donc là, il y a vraiment un problème de médiation. Moi, je le vois plus à ce niveau-là qu'au niveau des partis, parce que les partis politiques, il y a les Verts, il y a la France Insoumise, ils reprennent d'une certaine façon, mais au niveau de l'institution présidentielle.
Christine Guionnet, merci infiniment. Je rappelle qu'avec Michel Viviurca, qui est sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, vous avez co-dirigé ce livre « Nuit debout, des citoyens en quête de réinvention démocratique » qui a été publié aux presses universitaires de Rennes. Le livre coûte 20 €. Merci beaucoup. Merci Christian Lebar, merci notre réalisatrice Clotilde Haïs, et rendez-vous très prochainement dans une prochaine émission de Chercheurs en ville sur Canal B.